Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Il y avait l'histoire antique, l'histoire médiévale, l'histoire contemporaine, l'histoire immédiate, l'égo-histoire, et avec vous, depuis peu, il faut inventer, Pierre Nora, une nouvelle catégorie. En tout cas, vous êtes un de nos plus éminents historiens par l'originalité de vos travaux, et ajoutons que vous avez un biographe attitré, en la personne de François Dosse, qui vous a consacré une biographie très fournie. Un honneur peu attribué du vivant de quelqu'un en règle générale, une reconnaissance que vous avez suscitée par la qualité de vos travaux, par leur importance, par vos choix éditoriaux et par vos engagements personnels. Vous occupez et vous avez en effet occupé dans le monde intellectuel français une place singulière, à la fois d'acteur et d'observateur. Vos travaux sont devenus un objet d'étude pour vos confrères historiens spécialisés dans l'histoire culturelle et intellectuelle, et plus surprenant pour vous-même, Pierre Nora, vous ouvrez la page blanche d'une nouvelle branche de l'histoire, celle paradoxale de l'histoire vivante. Le regard critique que vous portez sur vos écrits, sur votre production d'articles depuis 50 ans, sur votre vie, vous a conduit à vous auto-éditer récemment dans un livre qui peut être pris aussi comme une source historique à part entière, puisque des moments, des grandes figures, des hommages jalonnent les pages de l'un de vos derniers livres intitulé « Historien public » qui est sorti en même temps que « Présent, Nation, Mémoire », autre titre et prolongement des lieux de mémoire, votre grand œuvre d'historien. Pierre Nora, bonjour.
Bonjour.
Comment est née l'idée de ce livre « Historien public » ?
Je vous dirais d'abord, madame, que vous avez une introduction qui est un peu généreuse à mon égard et me fait la part un peu belle. Il est vrai que j'occupe une position particulière et c'est la raison pour laquelle un historien comme François Dosse a été amené à faire une biographie, non pas parce que je me distinguais par l'énormité de mes travaux, mais parce que je me distinguais par la place particulière que j'ai été amené à occuper au carrefour de l'édition, et pas chez n'importe quel éditeur, chez Gallimard pendant 45 ans, dans l'université, mais pas n'importe quelle université, les hautes études, qui sont un organisme latéral de recherche, et peut-être aussi, disons, à l'intérieur du journalisme où j'avais presque commencé, et en particulier à l'Observateur, puis ça s'est élargi, c'était surtout l'Observateur du temps de Jean Daniel, qui aimait lui-même beaucoup les historiens, comme Mona Ozouf, comme le roi Ladurie, comme François Furet. Et donc, au carrefour de ce pari intellectuel, si j'ose dire, j'ai été amené à avoir donc une place particulière. Voilà. Et puis, chez un éditeur comme Gallimard, j'ai fait une grande revue qui s'appelle Le Débat, qui a fêté son trentenaire l'année dernière. Et donc, c'est évident que, si vous voulez, si vous me demandez pourquoi ce dernier livre et pourquoi Historien public, deux raisons immédiates. La première, c'est à Dosse que je le dois, car parallèlement à sa biographie, il m'avait conseillé de réunir l'ensemble de mes articles, me laissant organiser la partie tout à fait historienne, mais me disant qu'il avait retrouvé, exhumé, beaucoup d'articles que je connaissais ou dont j'avais le souvenir, mais que j'avais perdu, et qui constituait en effet une sorte de vie d'engagement, de polémique, de compte-rendu critique à l'intérieur de la presse ou fatalement à l'intérieur du débat.
Et d'articles qui avaient fait date.
Et d'articles qui avaient à beaucoup de moments fait date et qu'il les trouvait de qualité bien suffisante pour faire quelque chose, ce qui tombait pour moi assez bien dans la mesure où tout le monde m'a demandé d'une part de réunir mes articles et beaucoup, beaucoup m'ont demandé d'écrire mes mémoires.
Pourquoi vous, entre
et
les
alors,
mémoires
justement,
et,
eh bien, je crois
et la,
que je
le
l'ai
recueil
pas fait.
D'articles.
Eh bien, je crois que j'ai eu tout à fait raison de ne pas le faire, si j'ose le dire. J'ai rien fait comme tout le monde, ça non plus. Je voulais pas vous faire des mémoires, j'allais dire classiques. J'ai beaucoup écrit sur le genre mémoire dans les lieux de mémoire. Et c'est peut-être ça qui, dans une vie à la fois familiale et professionnelle tellement éclatée, me rendait difficile l'organisation de mémoires classiques. tandis que ces galets que j'ai disposés, malgré moi, au long du chemin de ma vie, et que DOS m'a aidé à retrouver, et dont j'ai moi-même retrouvé bien d'autres, constituaient, me semble-t-il, une forme de mémoire originale, parce que c'était une sorte de portrait de moi en creux, à l'intérieur d'un portrait d'époque, et dans l'époque, c'est-à-dire écrit au moment de l'époque. Beaucoup de ces petits portraits, par exemple, d'intellectuels, ont été des nécrologies qui m'ont été demandées parce que je les avais connues. Et que des tas de gens, d'historiens, de philosophes que j'ai édités, fréquentés, dont j'ai été l'ami, je les ai souvent connus à la fois intellectuellement et personnellement. Et ça me donne sur eux un regard de familiarité et de compréhension interne qui, lui, est un regard, je pense, assez singulier. Je pense que la réunion de tous ces articles, je m'en aperçois et j'écoute ce qu'on m'en dit et je crois qu'ils ont raison, parle à la fin de moi d'une façon plus éloquente que n'auraient fait des mémoires classiques et tout à fait organisées. Alors, on s'y intéresse ou s'y intéresse pas, ça c'est une autre affaire, mais voilà pourquoi. Alors, historien public, je viens d'un mot, sur le mot public. Eh bien, il y a quantité autour de moi d'historiens publics. René Raymond a été un historien public parce qu'il donnait sa propre visage à tous les commentaires des élections en montée en puissance des médias. Un homme comme Marc Ferraud est à sa façon un historien public à cause des histoires parallèles et de l'utilisation télégénique qu'il a fait de son savoir historique. Un homme comme Jacques Julliard, qui est un éditorialiste, soit à l'Observateur, mais il nourrit son style éditorial par une culture historique qui fait que c'est un historien journaliste et à ce gars un historien public. Donc Jean-Noël Jeannenet, si je prenais, illustre cette grande tradition des historiens qui ont partagé leur temps entre la vie politique et les responsabilités publiques et le travail historique. Et que dirais-je de mon ami Vidal Naquet, qui d'un côté était un historien de l'Antiquité et qui d'autre était un historien militant pour la justice et la vérité, les droits de l'homme, à travers la guerre d'Algérie et contre les négationnistes. Voilà. Alors moi, c'est un peu différent, c'est que je me suis identifié à l'actualisation d'une histoire très contemporaine et que j'ai été un éditeur à la fois historien et directeur d'une revue. Alors comment voulez-vous qu'un directeur de revue ne soit pas engagé dans la vie publique et ne soit pas amené à prendre des positions, à faire des manifestes, à embrigader du monde, à se lancer dans des polémiques de toute nature. Voilà.
Alors, ce que prouve effectivement la publication de ce livre d'historien public, très élégante formule, très jolie formule.
Merci.
Qui regroupe à peu près, je ne sais pas compter, mais ça fait à peu près 80 textes, à peu près, de manière chronologique. Et chacun d'entre eux est effectivement précédé d'une petite introduction qui replace l'ensemble dans le contexte. Et
dont je voudrais d'ailleurs qu'il fasse un peu le livre dans le livre.
Et c'est comme ça qu'on le lit, en tout cas. Et on a effectivement au fil des pages le portrait, et je crois que c'était votre intention aussi, le portrait d'une génération d'intellectuels à travers vous et à travers votre rôle d'animateur dans les positions particulières que vous avez évoquées tout à l'heure entre le débat, votre travail chez Gallimard, votre travail universitaire et vos relations avec vos amis intellectuels. Pierre Nora, dans ce livre, on sent vos choix personnels et surtout vos combats. Dans ces recueils, c'est un peu comme ça que moi je les ai lus. Je voulais vous demander, c'est une question qu'on a dû vous poser 50 fois, pardon, quelle est votre définition de l'engagement ? Parce que vraiment,
non,
c'est très...
Vous avez tout à fait raison, elle est fondamentale, elle est au cœur de mon activité personnelle et professionnelle. Parce que je passe pour, à travers le débat, et le mot même l'indique, comme quelqu'un qui a voulu dégager les intellectuels de tout engagement au sens sartrien du mot. C'est pas faux. C'est pas faux. Et ça ne veut pas dire, justement, c'est ça la difficulté de ma position, que ce livre permet de faire comprendre, je crois. C'est que je suis très engagé, si j'ose dire, mais pas au sens militant ni politique du mot. Et je crois que nous vivons à une époque où, au contraire, l'activité intellectuelle doit, pour être utile, se déprendre de toute forme d'inféodation à une militance de type politique, de gauche ou de droite. Qu'au contraire, ce qu'on appelle l'accélération de l'histoire, la complexité des choses, le déluge d'informations et de connaissances de toute nature. Bref, l'intellectuel, si j'ose dire, a pour mission maintenant de donner du sens à la vie collective, mais à une place assez particulière entre le savant idéal qui travaille dans l'université ou qui fait de la recherche pure et les médias, qui, coincés par l'actualité, de toute manière, n'ont pas le recul, la distance, la culture,
l'appareil
souvent,
critique
qui leur permet de replacer cette actualité dans la longue durée, de l'éclairer par l'histoire. Alors, c'est de ça que je me reconnais comme engagement, et j'irai jusqu'à dire que c'est un engagement passionné et plus peut-être ardent ou aussi énergique que la militance intellectuelle qui m'a toujours paru ne servir à rien. Et qu'il y a, me semble-t-il, entre cette inféodation politique et l'usage des médias, un lien évident, les deux en partie liés, les médias et cette forme d'engagement politique, ça repose sur une idée très simple, si vous voulez. Bon, c'est que on a beaucoup dit pendant ces 30 ans que les médias permettaient aux intellectuels, entre guillemets, d'avoir une influence ou d'avoir une portée de leur message décuplée, enfin, ou centuple, si j'ose cette expression, par les médias.
Par la publication.
Je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout, en ce sens que je pense que l'influence, disons, d'un intellectuel, entre guillemets, ne se mesure pas à l'audimat. Elle se mesure à l'importance de ce qu'il dit, de ce qu'il pense, de ce qu'il fait, de ce qu'il apporte. Et le reste va tout seul. Ricoeur a passé peut-être autant d'heures, ou Lévi-Strauss, à la télévision que Bernard-Henri Lévy, qui est notre exemple type de l'intellectuel médiatique. Il n'empêche que ni Ricoeur ni Lévi-Strauss ne sont des intellectuels médiatiques et que l'autre est un intellectuel purement médiatique parce qu'il n'y a pas l'œuvre de pensée derrière. Voilà. Et donc, je pense que c'est l'œuvre de pensée qui compte. Et en ce sens, oui, voilà, je pense à l'intellectuel engagé, dégagé.
Oui, et d'ailleurs, on a dans Historien public, où on peut relire un article que vous aviez publié, commis, qui a la dent très dure à l'égard de Bernard-Henri Lévy, comme un idéologue bien de chez nous.
Oui, mais, non, je ne crois pas que ce soit... Elle n'a pas voulu être tellement dure. Ça a voulu décrire ce phénomène très particulier qu'il représente, dès le début, de l'émergence de ce phénomène de l'intellectuel médiatique, qu'il occupe avec beaucoup de talent, d'ailleurs, avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'énergie, et une énergie qui n'a fait que grandir avec le temps, si j'ose dire, et que je salue profondément, mais qui n'est pas du même registre que l'intellectuel.
Or, revenons aussi au début de ce livre, dans cet ouvrage, il y a, on va revenir après sur les grandes figures intellectuelles du moment des sciences humaines, je vais l'appeler comme ça. Mais il y a aussi des textes, pourrait-on dire, plus personnels. Disons, d'abord il y a un récit de vos souvenirs d'Hippocagne dans les années 50, et puis il y a trois textes autour de l'Algérie, où vous avez séjourné de 1958 à 1961, et vous aviez écrit, alors à votre retour, « Les Français d'Algérie ». Le premier chapitre ou le deuxième d'Historien public, et c'est particulièrement...
Le deuxième.
C'est particulièrement émouvant, je trouve, d'avoir les trois textes ensemble, en fait.
Ben, ça me
fait
plaisir, ce que vous dites.
Parce que je connaissais les Français d'Algérie. J'avais depuis longtemps l'envie de vous interviewer sur ce livre qui n'avait plus d'actualité. Mais
il va
vous m'avez
reprendre.
Dit au
je vais vous
micro qu'il allait recommencer.
Je peux vous dire en un mot pourquoi. C'est parce que l'année prochaine, ça va être le cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie, en 2012, par rapport à 1962. Et c'est l'occasion pour moi de republier ce livre épuisé, Les Français d'Algérie, avec un texte étrange qui est une lettre que Jacques Derrida, qui était mon condisciple en Cagne, donc, dont je ne cite pas le nom dans le chapitre sur la Cagne, mais c'est cette génération-là, si j'ose dire, m'avait envoyé, il était d'Algérie, il ne s'est jamais exprimé sur l'Algérie et sur la guerre d'Algérie. Et au reçu de ce livre, Les Français d'Algérie, il m'a envoyé une lettre d'une trentaine de pages manuscrites que j'avais voulu à l'époque faire publier dans Esprit ou dans une revue en disant que ça me dépassait totalement, cette belle lettre. Et il n'avait jamais voulu, en disant qu'il ne voulait pas s'exprimer publiquement, mais que mon livre avait été l'occasion de se mettre à jour avec lui-même sur cette question.
Sur ce sujet.
Alors, c'est un texte d'autant plus important qu'il n'en a pas écrit d'autres et que certaines des biographies qui ont paru depuis de lui... impute ce silence sur l'Algérie à une sorte de OAS qui n'ose pas dire son nom, comme le furent beaucoup de juifs d'Algérie d'ailleurs, alors qu'il n'était pas du tout comme ça, c'était un Camusien réduit au silence, si j'ose dire, devant ce que devenait l'Algérie. Alors, il me reproche, à la fois il apprécie beaucoup mon livre, puisqu'il me fait l'honneur de penser que c'était son déterminant à réfléchir, mais ce livre se caractérisait par un accent polémique extrêmement fort, dont la pointe était dirigée au scandale sur ceux qui apparaissaient pourtant comme l'honneur des Français d'Algérie, c'est-à-dire les libéraux d'Algérie, dont Camus ou Germaine Tillon étaient les héros. Or, je m'en prenais très violemment à cette catégorie en pensant que ces belles âmes n'avaient servi à rien et ne serviraient à rien et n'auraient aucune influence, ce qui était d'une méchanceté sacrilège, mais salutaire à mon avis. Voilà.
Alors là, pour le lecteur d'aujourd'hui dans Historien Public, il y a la réunion de trois textes, donc un extrait des Français d'Algérie, professeur à Oran.
Oui.
Il y a un texte sur l'heure de l'indépendance, c'est un article extraordinaire, moi je ne connaissais pas cet article.
Il y avait eu un prix du reportage.
Où vous êtes retourné en Algérie au moment de l'indépendance,
invité
par les autorités. Et puis il y a un troisième texte, c'est pour présenter comment un chapitre d'Historien Public est en fait un peu conçu. Et un troisième texte paru, alors cette fois dans les années 81, sous votre plume bien sûr, dans le Nouvel Observateur, qui s'appelle « La guerre du souvenir ». Et là on est un petit peu déjà au cœur de tout ce qui fait vos problématiques, et j'imagine que c'était voulu, où on revient avec la lecture de cet article sur la question des archives de la guerre d'Algérie qui, au moment, en 1981, la question s'est posée de savoir si la France les donnait, les rendait à l'Algérie qui les réclamait. Et là, on a effectivement tout un lien qui concerne la cohérence de vos engagements, justement.
Et vous me faites très plaisir pour tout vous dire, madame, parce que j'ai écrit beaucoup plus d'articles sur l'Algérie que ceux que j'ai choisis là. Je les ai choisis parce que le premier était mon premier article. C'est quand je suis revenu d'Algérie et que j'ai écrit un article qui était de résumé, enfin, professeur à Oran, et c'était avant l'OAS, c'était à la veille de ce qu'on a appelé le premier Évian, c'est-à-dire en 1961, les premières tentatives d'accord qui ont échoué. Et j'avais donc fait un très long article qui a paru le jour de la première grande manifestation étudiante du 21, je me souviens plus, d'octobre 61, et qui avait été la première occasion pour la police de charger dur et sec contre les manifestations étudiantes. Alors du coup, ça avait donné un certain éclat à cet article qui avait paru. À l'époque, l'Observateur pouvait faire des articles très longs.
Oui, parce que ça frappe,
le
ça, aujourd'hui.
Le deuxième, c'est que, si mes souvenirs sont bons, c'est que c'était le moment juste de l'indépendance. La semaine, au moment où il y avait cette organisation transitoire et qui s'était installée près d'Alger, à Rocher Noir, et qui devait durer quelques mois entre l'installation de l'indépendance vraie et l'OAS, qui faisait encore des siennes, au point que, d'ailleurs, à cette semaine-là, j'avais été collé au mur. Je ne l'ai pas raconté dans l'article, par une voiture de l'OAS qui m'avait vu revenir avec une amie d'ailleurs qui redescendait des hauteurs d'Alger où j'avais passé la nuit chez des musulmans. Et je n'ai été sauvé que par des milices de Rocher Noir qui sont arrivées à ce moment-là et qui ont fait fuir les milices de l'OAS. Mais je ne raconte pas ça proprement, mais j'essaye de faire une sorte de description un peu kaléidoscopique de cette Algérie entre deux. Et en effet, on m'avait beaucoup dit à l'époque que c'était bien, si j'ose dire, et je suis content que vous ayez repéré ce texte.
Alors, ce n'était pas uniquement pour vous flatter, mais parce que c'est comme ça que je l'ai lu, et surtout comme d'autres le liront à la lecture des événements actuels du printemps arabe. J'ai été très frappée, moi, tout simple lecteur, quand j'ai lu justement votre article là sur l'indépendance, parce que c'est dans cette phase de transition on est exactement en ce moment, et vraiment j'engage les gens à le lire, parce que vous étiez là aussi encore à un poste d'observation privilégié, vous avez eu une chance extraordinaire, surtout les articles, comme vous le disiez, sont très longs, et c'est pour ça qu'au début je parlais dans l'introduction de que c'était aussi des documents historiques, vraiment.
Ah, vous me comblez, puisque c'est à ce titre et c'est dans cet espoir que je l'ai publié.
Alors, dans ce livre, je parlais tout à l'heure de vos combats. Justement, cette période-là, c'est votre, non pas votre premier combat, mais c'est le combat contre le racisme qui ressort de cette période, peut-être.
Oui.
Non.
C'est aussi le colonialisme.
Bien sûr.
C'est-à-dire Oui, j'ai mis là quelques-uns des textes dont je m'aperçois. En effet, rétrospectivement, vous avez raison qu'ils sont très engagés sur... Ben, n'oubliez pas que c'est le moment où commençait, disons, le faurissonisme, le négationnisme, et que tous les livres qui pouvaient exalter, enfin, montrer quelque chose de positif, du contraire, m'attachaient. En particulier, je crois avoir été le premier à écrire sur les livres de Léon Poliakov, dans l'Observateur ou dans son histoire de l'antisémitisme. Je crois avoir fait une grande page sur lui que je reproduis et qui a pour lui beaucoup compté parce que c'est la première fois. Quoi. Voilà. Je reproduis un autre article sur les leçons industrielles de Raymond Aron qui avait paru en livre de poche parce que ma proximité avec Jean Daniel à l'époque m'avait permis de publier dans l'Observateur ce compte-rendu, alors qu'on ne s'en rend pas compte encore aujourd'hui, mais le nom même de Raymond Aron était imprononçable à gauche. C'était l'horreur, c'était le maccartisme, c'était l'allié des États-Unis, c'était la bête noire du Figaro. On ne prononçait pas son nom, point. Alors, le fait même de rendre compte de son livre, de dire « faut lire Raymond Aron », qui aujourd'hui paraît un peu dérisoire, a en effet un caractère polémique et de combat. Il y avait aussi le problème du colonialisme. Et c'est à ce titre que j'ai rendu compte du livre de Charles-André Julien sur l'histoire de l'Algérie contemporaine, parce que même encore André Julien, dans le contexte de l'époque, fleurait le soufre. C'était pourtant un professeur très patenté qui avait été doyen de Rabat, mais c'était lui-même un historien très, très anticolonialiste, très lancé, qui avait écrit les premiers livres de contre-histoire officielle de l'Algérie, comme l'Afrique du Nord en marche. Et donc, ça prenait des tournures profondément polémiques. Je dis ça parce que vous me disiez racisme, c'est tout un ensemble, en effet, où peut-être j'étais plus engagé, au fond, à gauche, à l'époque, plus combatif, plus violent, plus polémique, que je ne le serais aujourd'hui. Encore que ces causes étaient excellentes.
Et qu'elles le sont toujours. Et qu'elles le sont toujours. Et que je pense que vous monteriez au créneau de la même façon.
Je pense, mais sur d'autres sujets. Vous m'avez, je crois, même interrogé autrefois sur le musée d'histoire de France ou sur l'hôtel de la Marine.
Sur l'histoire.
Voilà. Ou sur certaines commémorations comme Austerlitz, etc. J'y suis pas allé de main morte, si j'ose dire.
Tout à fait. Alors, dans Historien public, on a aussi un recueil de votre regard sur l'édition. Enfin, on peut le voir comme ça. Et vous avez, écrivez-vous, une certaine idée de l'édition. C'est le chapitre qui s'intitule ainsi. Alors, que faut-il...
Je m'empresse, vous permettez que je vous dise que j'espère que de tous ces textes, la dimension presque principale auquel le lecteur pourrait être sensible, c'est quand même l'humour.
Bien sûr, une certaine idée d'édition,
je ne me prends pas pour... Vous voyez,
j'en manquais aussi pour avancer la question, en fait.
Je ne voudrais pas que l'auditeur prenne au sérieux, au sérieux.
Une certaine idée de l'édition, c'est effectivement de l'humour. Par exemple, qu'est-ce que vous avez inventé dans l'édition?
Je n'ai rien inventé, oui. Tout. Encore que si j'ai inventé quelque chose dont je suis très fier, mais qui est aujourd'hui tout à fait dépassé, c'est cette petite collection archive par laquelle je suis entré dans l'édition et qui n'existe plus tout à fait aujourd'hui après avoir publié 150 livres. C'est par là que j'ai commencé. Et j'ai commencé chez Julliard, d'ailleurs, là où j'avais publié Les Français d'Algérie, grâce à Christian Bourgois, éditeur connu mais hélas disparu, et qui m'a mis le pied à l'étrier en faisant avec moi cette petite collection appelée archive. Qu'est-ce que c'était ? C'était en livre de poche et au moment où paraissait toute la grande vague du livre de poche, idées, petites planètes et points, etc., c'est-à-dire en 63-64, l'idée que j'avais eue de réunir des documents d'histoire brute ou d'archives montés en quelque sorte par les meilleurs des historiens et qui faisaient un contact direct avec le passé, avec le document.
Avec le document.
Aujourd'hui, c'est une chose devenue tout à fait banale. Mais à l'époque, on peut dire que l'histoire se divisait en deux. Vous aviez une grande histoire qui était faite de recherches archivistiques, de thèses, de travaux, de synthèses, pour un public très cultivé. Et vous aviez d'autre part une petite histoire anecdotico-académico-médiatico et...
On n'avait pas les archives dans la poche.
Et académico, si j'ose dire. Voilà. Et alors, entre les deux, à l'époque, ça faisait, si vous voulez, droit à un sentiment de rapport au passé très nouveau, Alusa et qui consistait au fond à sortir les archives du secret des bibliothèques et à le mettre dans la poche et dans la rue. Voilà. Oui. Il y avait quelque chose donc d'un peu démocratique, immédiat, populaire. Surtout que les titres flottaient dans la mémoire collective. C'était le scandale de Palama, Auschwitz, les procès de Nuremberg. Vous voyez des titres jusque la mort de les Gracq.
La Commune aussi.
La Commune, les procès des communards, etc., etc.
C'est une collection qui a eu,
beaucoup de succès.
Un énorme succès.
Et qui a été très scolarisée pour beaucoup. La culture historique de beaucoup de gens d'une cinquantaine ou soixantaine d'années aujourd'hui a été beaucoup faite par ces petits livres qui... Alors là, je crois que j'ai inventé quelque chose. Et c'est d'ailleurs sur le succès de cette
vous
collection...
Vous avez été précurseur.
Que, précurseur en tous les cas. J'ai senti là aussi quelque chose de public, si vous voulez. C'était une collection d'histoire très publique déjà. Et c'est sur le succès de cette collection que Claude Gallimard, qui sentait obscurément que la maison Gallimard avait incarné avec son père la période littéraire, peut-être une des plus brillantes en France, les témoins et que des gens comme Braudel, Lacan, Lévi-Strauss n'étaient pas venus chez Gallimard et que Gallimard ne les avait pas publiés. Et c'est sur le succès de Archives qu'il s'est adressé à moi pour me faire une proposition qui m'a dévoyé et changé toute la vie. Je devais être professeur, je devais être essayiste, universitaire, et il m'a proposé, après 30 ans, 32 ans, d'entrer chez lui pour développer ce secteur qu'il n'appelait pas d'ailleurs sciences humaines, il ne savait même pas dire sciences de l'homme, tout à fait, c'était des documents, des idées, des... Et effectivement, un Gallimard qui vous fait une proposition pareille, ça vous fait tourner la tête. J'ai beaucoup hésité. Tout le monde m'a dit, tu n'écriras plus, tu vas plus, etc., etc. Et j'ai essayé de rester quand même dans l'université tout en entrant chez Gallimard, où je me suis dit, je vais rester 2 ans, 3 ans au maximum. J'y suis resté. Aujourd'hui, ça fait 46 ans. Alors, vous voyez, et c'est ça qui m'a mis directement à pied d'œuvre.
Avec ce rôle un peu particulier là, que vous venez d'expliquer, un peu l'équivalent de ce qu'avait été Jean Paulhan pour les lettres.
Mais on cette a fois, dit pour, ça, on l'a dit,
mais c'est pour résumer, rapidement, pour les sciences humaines, qui sont effectivement en train de naître à ce moment-là, et vous participez à toute cette émergence. François Doss, je ne sais plus, il parlait du moment des sciences humaines.
Du beau moment, du grand moment,
des sciences humaines. Vous voulez rebondir juste sur ce moment.
En quoi ça a consisté? Écoutez, c'est très simple. C'est le moment où beaucoup d'auteurs, eux-mêmes, dont les parents, si j'ose dire intellectuels, avaient été confinés dans les maisons d'édition purement universitaires et à un public strictement universitaire, débouchaient eux-mêmes sur le grand public. Et ils avaient au fond le même type de savoir en qualité que leurs prédécesseurs, mais ils savaient s'exprimer pour le grand public. Je pense à Georges Duby, je pense à Jacques Le Goff, je pense à François Furet, je pense à Leroy Ladurie, dont Montaillou a été mon premier grand succès d'édition, à Benveniste, et aussi même à des biologistes, des hommes de science, puisque j'ai eu la chance de pouvoir publier François Jacob, La logique du vivant, et c'était aussi le moment où on pouvait, parce que les finances le permettaient, traduire beaucoup. J'ai beaucoup traduit du Galbraith, des économistes, des Panofsky, en histoire de l'art.
Ce qui a permis justement aux étudiants et aux chercheurs français d'être en accès direct sur
il y a eu une rencontre, si vous voulez, entre un moment de la production intellectuelle très brillante en France, un moment de l'université, puisqu'ils étaient tous des universitaires, pensaient que la même semaine, ou presque, est entré au Collège de France, où sont entrés Raymond Aron, Georges Duby et Michel Foucault. Presque le même mois ou au même moment. On n'a pas l'équivalent aujourd'hui, c'est clair. Et je les ai publiés tous les trois. Donc, évidemment, il y a un moment où presque il se répandait qu'il fallait passer par mes collections et mon bureau pour entrer au Collège de France. Si vous voulez, on se disait, c'était magique. C'était pas le cas. Mais il y a eu, effectivement, j'ai beaucoup bénéficié de l'aura de Gallimard. Si j'avais été chez un petit éditeur, j'aurais pas pu faire ça. Mais j'ai, en effet, planté le drapeau de Gallimard sur la Napurna des sciences humaines, si j'ose dire. Et je l'ai aidé à monter la pente. Et j'ai eu cette chance d'être au cœur d'un réseau de production exceptionnel, d'être porté par lui et de le porter. Voilà.
Alors en 2004, vous prenez la défense des sciences humaines à nouveau, j'allais dire. Enfin, pas à nouveau, mais en appuyant le livre de Sophie Barluet, qui avait fait un rapport pour le CNL sur l'état de l'édition des sciences humaines. Aujourd'hui,
aujourd'hui, très inquiet.
2011, jugez-vous l'état de l'édition des recherches des sciences humaines meilleur ou pire ?
Bon, bien, vous pire donner... bien pire, bien pire.
Donc écoutez, les choses ont empiré.
Évidemment, et c'est pas... Eh bien, écoutez, les chiffres l'indiquent. Moi, je pouvais tirer des livres à 4000 exemplaires, c'était à peu près le chiffre que je devais faire, les vendre en 2 ans, les vendre à l'étranger et les rééditer, évidemment. Or, la moyenne donnée par le Syndicat national de l'édition pour ce type de livre est aujourd'hui de 800.
Il était de 2000 dans les années 88,
voilà,
par là,
il est de 800 aujourd'hui. Il est de 800. Et la durée de vie est de 3 mois. Alors, vous faites un livre de fond qui dure 3 mois et qui se vend à moins de 800 ou 800 exemplaires au mieux. C'est pas le même monde. Et qu'est-ce qui s'est passé du point de vue qualitatif ? C'est que ce type d'ouvrage que j'ai eu le bonheur de publier avait un double public. Un public universitaire, évident, et un, ce qu'on appelait plus ou moins grand public, si ce n'est le très grand public, du moins un public éclairé, qui dépassait. Et toute ma ligne de crête portait sur ces deux versants, si vous voulez.
Mais alors comment aujourd'hui expliquez-vous
ça ? Et ni l'un ni l'autre n'existe. Point. D'accord. Le public universitaire n'existe plus parce qu'il n'achète pas, à la rigueur les meilleurs lisent dans les bibliothèques, et encore les bibliothèques s'ils achètent les livres parce qu'ils n'ont plus assez d'argent et donc elles ne l'achètent pas non plus, ou enfin je caricature un petit peu, mais enfin en gros c'est ça. Donc ce public universitaire a fondu, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des exceptions de professeurs ou d'étudiants, oui, mais il a fondu quantitativement et le grand public n'existe plus non plus.
Ce public éclairé dont vous parlez.
Mais non, prenez, moi j'ai correspondu, si j'ose dire, à l'époque Bernard Pivot dans le grand public, avec lequel d'ailleurs j'ai fait un livre qui s'appelle « Le métier de lire » et qui consistait à lui poser des questions et il y répondait excellemment. Mais je n'ose pas dire j'ai été le pivot de l'édition des sciences humaines, mais vous voyez bien que Pivot, qui sur le moment était considéré comme la malédiction par les intellectuels, mais qui rétrospectivement est la bénédiction et le sauveur. Des gens comme précisément Derrida ou...
sont passés par le plateau d'Apostrophe.
Ou Bourdieu, ou Braudel, ou Lévi-Strauss bien entendu, et tant d'autres sont passés par le... Dubézil a été un vrai... Il a fait un one-man show, je sais pas. Lévi-Strauss, bien sûr, mais je pense à des tas d'autres. Benveniste, lui-même. Non, pas Benveniste, mais Dubézil. Alors, c'est impensable aujourd'hui, tout simplement.
Alors, vous évoquez de grands noms, et dans Historien public, il y a une galerie de portraits de ces personnalités majeures. Alors, ça a été terrible d'en choisir deux, parce que vraiment, il y en a énormément. Si vous le voulez bien, est-ce que vous pourriez nous parler de deux d'entre eux, de René Raymond, qui a beaucoup compté pour vous, qui fut comme vous à l'Académie française et qui vous a accueilli au sein de l'Académie sous la coupole. Et puis, si on a le temps aussi, j'aimerais que vous puissiez nous parler de Michel Foucault, que vous avez aussi connu. On va peut-être commencer par René Raymond. Que représente-t-il pour vous exactement ?
Un frère aîné, je dirais. À Raymond, à titre personnel, je dois beaucoup, puisque c'est lui qui m'a fait venir à Sciences Po quand j'ai été sorti du CNRS comme assistant. Et même avant, il le rappelle dans son discours de réception, quand j'avais fait mon diplôme, ce qu'on appelle diplôme d'études supérieures, c'est-à-dire juste après la licence, une sorte de mémoire que j'avais fait avec quelqu'un de bien oublié aujourd'hui, mais qui avait une grande personnalité, qui était Victor Lucien Tapier. Et Tapier avait donné mon mémoire qui portait sur l'opinion française et la Russie de 1815 à 1840 à René Raymond qui était en train de faire sa thèse sur l'opinion française et les États-Unis de 1815 à 1863. C'était le moment où on faisait les études d'opinion. Et Raymond m'avait mis une note canon. Et donc, c'est dire que ça remonte très très loin. Ensuite, il a cherché donc à me faire venir à Sciences Po, donc et quand il a été question des hautes études, il m'a chaudement recommandé pour que je sois directeur d'études d'histoire contemporaine aux hautes études. Et puis, je pense qu'à l'Académie elle-même, il n'a pas été complètement indifférent au fait de me choisir pour entrer. Et si vous voulez d'ailleurs tout savoir, mais j'ose à peine le dire, quand il s'est présenté, lui, à l'Académie française, il est venu me voir. Ça a toujours impressionné beaucoup ma femme, ma compagne, et bouleversé presque, parce qu'il m'avait demandé à me prendre à part et à me dire « Vous ne voulez pas vous présenter à ma place, avant moi ?» C'était... j'en ai larmes aux yeux. Et alors donc, quand je suis entré, il m'a demandé à me recevoir, il l'a fait avec beaucoup de générosité. Bon, alors à titre personnel, je lui dois beaucoup. Mais intellectuellement, plutôt, je voudrais dire aussi ma dette. Ma dette, c'est qu'à Sciences Po, j'avais suivi un peu ses cours, ses séminaires, et des gens comme Thibaud, ils représentaient par rapport à l'histoire économique et sociale que je ne voulais pas faire. Et à l'école des annales pures, que j'aimais tant et qui m'avait formé, un type d'histoire contemporaine et politique qui était celle qui m'attirait. Et il était à peu près seul à la représenter à l'époque. Alors ensuite,
Non,
je n'ai pas été ami avec lui.
Non.
C'est ça qui est très bizarre. Je n'étais pas de ce qu'on appellerait sa chaouïa, qui étaient des intellectuels catholiques, plutôt comme Bédarida, comme Mirza. Mirza, non, mais Bédarida, beaucoup, qui était son bras droit. Et il a fait d'ailleurs l'Institut d'histoire du temps présent en 1978, avec Bédarida, au moment, l'année même où j'entrais aux hautes études, comme s'il avait au fond placé, ou contribué à placer un peu ses pions, je dis ça pas de façon péjorative, l'un aux hautes études, l'autre l'Institut d'histoire du temps présent. Et il m'avait poussé d'ailleurs à prendre, avec le Goff, comme titre de ma direction d'études aux hautes études, Histoire du présent, ce qui voulait bien dire à quel point l'histoire contemporaine
était
au cœur de ses projets. Alors, c'est très tard qu'on est devenu vraiment amis, et il me l'a dit presque au moment où il est devenu malade, et où il m'a dit on devient vraiment amis trop tard. C'était un homme qui avait une telle réserve, qui d'abord travaillait beaucoup, et qui avait une retenue extraordinaire. Moi, il me semble que l'Académie lui a fait un grand bien et l'a libéré profondément. C'est un homme qui a toujours été un peu en arrière de la main, si vous voulez, toujours un petit peu réservé. Et l'Académie l'a profondément libéré, me semble-t-il. C'est à partir de ce moment-là que le grand Raymond, si j'ose dire, est apparu avec une sorte d'autorité magistériale, d'honnêteté exceptionnelle intellectuelle, et que, au fond, on s'est rapproché à travers cette, peut-être l'Académie française, c'est un des grâces qu'elle m'a faites, c'est de nous rapprocher. Mais comme il l'a dit lui-même, trop tard.
C'est son rapport existentiel à l'histoire, dites-vous, dans ce livre, qui vous
c'est
a
vrai,
le plus...
qui m'a touché.
Touché, attaché à,
ben, si
à sa
voulez,
pensée.
Moi, j'ai toujours été très sensible à ça, probablement parce que j'avais ça viscéralement. C'est, l'histoire m'intéressait moins en tant que curiosité générale, je me le reproche, science, je me le reproche, que comme réponse aux questions que je me posais. C'est ce qui, je pense, me fait historien jusqu'au fond de l'âme, en dépit du fait que j'aurais moi aussi des scrupules à penser que je suis un vrai historien. Je le suis, j'oserais pas le dire que je le suis pas, mais j'oserais pas dire que je le suis. Et Raymond a fait partie de ces quelques-uns, comme le Goff, dont je pourrais aussi dire à quel point je suis lié à lui intellectuellement et amicalement. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans Historien public, j'ai pris deux textes, un sur Raymond, un sur le Goff, parmi les historiens, pour faire leur portrait, si j'ose dire, en pied. Parce que, par ailleurs, il y a des tas d'évocations dans Historien public de tas d'autres...
Ah oui, la liste est longue.
Oui. Mais c'est des nécrologies, le reste, ce sont des hommages. Je voudrais, à propos de René Raymond, évoquer, que je ne fais jamais sans émotion, avec un très grand souvenir, le dernier que j'ai de lui, au moment où il a remis ses archives à la Bibliothèque nationale. Traditionnellement, la bibliothèque fait une journée d'hommage ou de discussion sur la personne, c'est-à-dire sur René Raymond, qui m'avait fait l'honneur de me charger de l'exposé le plus large, qui était l'apport de René Raymond comme historien de la France. J'avais fait un discours qui lui avait beaucoup, beaucoup plu, je crois, puisqu'il m'avait écrit juste après que c'était comme un discours de réception à l'Académie française qu'il l'avait reçu comme ça. Et après, pas seulement mon discours, mais à la fin de la matinée qui lui était consacrée, il entrait le lendemain à l'hôpital, et dont il n'est pratiquement pas sorti, et il a fait ou improvisé un message qui était au fond un testament dont on se rendait compte. Il était déjà très malade, il faisait un effort sur lui-même pour parler, et il disait avec une simplicité absolue des choses qui étaient tellement personnelles et émouvantes qu'il nous a laissé un grand souvenir.
Et on peut retrouver ce texte aussi, c'est le moment Raymond. Dans
voilà,
Historien
ce que j'ai
public,
appelé le moment Raymond.
Ce qui est l'allocution prononcée justement à la journée d'hommage
d'hommage, c'est le discours que j'avais fait. En fait, dans les grandes figures, si j'ose dire, d'intellectuels, j'ai essayé de faire un panel. J'en ai pris deux journalistiques, Jean Daniel et Bernard Pivot. J'en ai pris deux historiens, Le Goff et René Raymond. Et j'en ai pris deux grands intellectuels. L'un, Starobinsky, moins connu, mais qui incarne la grande tradition critique de la littérature occidentale. Et Lévi-Strauss, en majesté. Et le grand moment que représente Triste Tropique dans la transformation de la conscience occidentale. Voilà. Et c'était ça, je ne peux pas tout prendre, j'en ai fait d'autres, évidemment. Mais voilà, j'ai essayé de faire un échantillon. Bref.
Alors, vous parliez. Voilà, je voulais qu'on vous parliez de.
Foucault a été mon grand auteur. C'était mon grand auteur. J'étais pas entré encore chez Gallimard que j'étais entré en rapport avec lui. C'est au moment d'Archives que je lui avais écrit parce qu'il avait publié cette histoire de la folie qui m'avait passionné et fait comprendre une autre histoire, une autre forme d'approche de l'histoire. Je lui avais écrit, on s'était vu. Je crois que c'est à la Bibliothèque nationale que je l'avais rencontré par l'intermédiaire de Furet qui m'avait dit, ben voilà. Et je lui avais demandé, pour la petite collection Archives, un livre suite à l'histoire de la folie sur les embastillés, sur la Bastille, qu'il n'a jamais vraiment fait. Mais quand je suis entré chez Gallimard, tout de suite, je me suis tourné vers lui. Il était en train de terminer un livre. Il avait d'ailleurs déjà publié un petit Roussel chez Gallimard dans la collection de Le Chemin de Lambrix. Et il était très éloigné de Gallimard parce que Gallimard lui avait refusé son histoire de la folie, précisément.
Qu'est-ce que ça représente, la publication de ces ouvrages-là? Parce que ce que je veux dire, c'est est-ce que vous pourriez nous présenter ou résumer l'importance que ça a été dans le tournant, justement, de ces années intellectuelles?
On s'en rend compte, justement, vraiment, parce que, tout simplement, c'est la proximité. Je n'ai pas eu l'impression d'un génie.
À l'époque, vous n'avez pas...
J'ai l'impression d'une proximité de sensibilité.
Mais avec le recul aujourd'hui, quand même, on est impressionné. Vous parliez tout à l'heure de ces grands noms, oui. Raymond Aron, Michel Foucault. Aujourd'hui, pour des générations plus jeunes qui ne les ont pas connus, qui veulent avoir leur pensée en héritage, même si à l'époque, vous perceviez bien qu'il se passait quelque chose.
Ben c'est très simple ce qui se passait et qui nous touchait. Ben, je peux vous le dire. C'est que c'était des gens qui avaient, comme Foucault, le même type de bagages scientifiques et surtout philosophiques de leurs aînés qui parlaient philosophiquement abstraitement. Et eux parlaient de problèmes qui avaient un effet de réalité immédiat,
qui était la folie,
le pouvoir, le gouvernement. De la même façon, je dirais que des gens comme Le Goff, qu'est-ce qui me touchait chez eux? C'est la même chose. C'est qu'un Le Goff savait autant que les médiévistes d'avant, mais le livre premier par lequel je l'ai approché, c'est Les intellectuels au Moyen-Âge, qui est un livre qui aujourd'hui paraît presque banal comme titre, mais qui à l'époque était complètement provocateur, parce que dire qu'il y avait des intellectuels qui n'existaient
pas... Tellement 20e siècle, on va
voilà.
dire.
Voilà. Donc, c'était indenter un type de savoir purement scientifique et lointain sur une sensibilité extraordinairement contemporaine. La même chose avec Foucault. C'est-à-dire qu'on philosophait, Sartre était passé par là probablement, c'est-à-dire je pense que les gens qui ont connu Sartre comme philosophe ont eu aussi cette impression avant, la génération d'avant, d'un philosophe qui leur parlait de la vie quotidienne, du rapport au réel, il se gourait sur le plan politique, Foucault aussi d'ailleurs après, mais ça vivait. Voilà. Alors j'ai eu cette impression-là très forte, effectivement, lisant Les mots et les choses, d'abord... Je ne me prononçais pas sur la validité intellectuelle pure, sur laquelle je reste réticent d'ailleurs, mais sur la qualité littéraire. Or, j'étais de ceux qui étaient extrêmement soucieux et sensibles à la dimension littéraire de cette approche jargonneuse des sciences humaines, en sociologie,
en économie. Vous dites que le succès de certains était peut-être même dû à
l'écriture
illisible, parfois.
C'est vrai.
Ça, c'est de l'humour.
Mais en tous les cas, j'étais sensible. Or, il était clair que Foucault écrivait très bien.
Voilà.
Et que j'étais extraordinairement sensible à sa prose, à son talent. Et donc, vous savez, comment dire, l'amitié se mélangeait à la... Je n'ose pas le dire, parce que ça a l'air un peu prétentieux, mais je vous prie de l'entendre comme je le dis, et pas prétentieusement. J'ai eu la chance que beaucoup de ces gens-là, je les ai connus quand ils étaient petits, si j'ose dire entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas devenus ces monstres sacrés qu'ils sont devenus depuis. François Furet, c'était mon beau-frère. Jean-François Revel jouait au Jokari avec lui et avec son fils. Foucault, on se marrait en disant du mal de tout le monde. Le Goff, c'était un copain, je veux dire, avant tout. On parlait de tout et de rien, on visitait des expositions, on était... Voilà. Et donc, il y avait une espèce de proximité humaine avant d'être intellectuel. J'ai souvent eu l'impression de voir ces gens-là un peu comme des petites bulles de taupe, si vous voulez, qui tout d'un coup devenaient des volcans historiques qu'on regardait de l'extérieur, alors que j'avais eu l'impression de les considérer comme de l'intérieur. Voilà. C'est de la chance que j'ai eue.
Une belle chance.
Quand j'ai connu Revel, il s'appelait Jean-François Ricard, il se faisait coller à l'agrégation, etc., etc.
Bon. Je voulais vous poser une dernière question sur Michel Foucault.
Oui.
Est-ce qu'il aurait pu être à l'Académie française ? Est-ce que la question s'est posée ?
Alors, écoutez...
Vu l'envergure des travaux, de la
bien
pensée...
entendu, du point de vue personnel. Pourtant, il m'en a parlé avec beaucoup de précision, je peux vous dire. Au moment où Dumézil est entré à l'Académie, ça l'a fait rire aux larmes, le bonheur qu'avait Dumézil à entrer à l'Académie française. Et il m'avait dit, ça lui fait tellement plaisir que vraiment, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Cela dit... Je trouve qu'on devrait faire choisir aux candidats ou le Collège de France ou l'Académie, parce que sinon, le Collège de France, où il était, risque de devenir l'avant-dernier barreau du chin que l'Académie française va représenter dans son altitude. Et donc, si on veut garder tout son prestige au Collège de France... faut qu'ils choisissent, c'est ou le collège ou... Voilà. Parce qu'il y avait beaucoup de gens du collège qui entraient à l'époque, il y avait Duby. On parlait beaucoup de Raymond Aron qui allait entrer au moment où il est mort. Ça devenait presque un problème d'actualité. Lequel d'entre nous ? Alors c'est moi le suivant, on va me le demander. Non, j'irai pas, mais j'irai pas parce que justement, parce que c'est pas mon monde. Encore qu'il eût été capable de dire oui au dernier moment, parce que vous savez que Foucault, s'il est un homme beaucoup plus compliqué que vous ne croyez, la réussite sociale était chez lui très, très importante. Et il m'avait dit 25 fois, si j'avais fait de la politique, je voudrais être président de la République. Et il a été candidat à la direction de l'enseignement supérieur, du temps de Fouché. Donc, c'est un homme qui voulait réussir. Contrairement, vous voyez ce que je veux dire. Il n'était pas question, si on était prof, de ne pas être au Collège de France, tout en faisant courir le bruit que puisqu'on le punissait pour ses opinions dissidentes, il était renvoyé dans un collège. C'est le bruit qui... Mais enfin, c'était le Collège de France.
Pas n'importe quel collège, bien entendu. Vous avez donc eu ce grand combat pour l'histoire, pour la liberté pour l'histoire dont on a parlé, mais je renvoie nos auditeurs à une émission que vous avez enregistrée ici à Canal Académie. Et puis, nous n'avons pas parlé du débat, de la revue Le Débat, parce que vous avez aussi consacré une émission sur Canal Académie aux 30 ans du débat, mais qui sont, disons, les deux autres piliers de vos combats. Pour terminer, Pierre Nora, peut-être est-ce que le dernier de vos combats serait une petite dénonciation de la vertu trop démodée, auquel vous avez déjà fait allusion, bien sûr, dans votre discours de
c'est
réception.
Mon discours, c'est un discours
voilà, de réception au sein de l'Académie française sous la coupole, et que vous avez placé ici en épilogue, en fait. Pourquoi ce clin d'œil ?
Là aussi, c'est un clin d'œil. Alors, un clin d'œil a plusieurs entrées, si j'ose dire. La première, c'est que c'est un exercice de pure rhétorique. Le discours sur la vertu est une sorte de...
Il y en a eu combien maintenant ?
350 à peu près, donc tous les ans, et très souvent, alors où on les donne aux jeunes qui viennent d'entrer pour les bizuter, si j'ose dire. Alors cet exercice de rhétorique que tous font avec beaucoup d'élégance, et qui souvent consiste, le plus souvent, à ruser avec le sujet... pour abuser l'auditoire.
L'auditoire, bien sûr.
Moi, je l'ai pris au sérieux, en étant historien.
C'est en 2006.
Et c'est en 2006. Et j'ai essayé, au fond, de réfléchir à ce qu'était la vertu aujourd'hui, en donnant un peu la substantifique moelle, et en le liant à l'évolution démocratique, je renvoie. Alors, je crois que j'avais fait un discours dont Druon avait eu la gentillesse de me dire que c'était le meilleur, et donc, qu'il avait entendu, etc. J'ai senti bien que ça avait du succès, et que ça dépassait le cadre purement d'un discours de circonstances, et qui portait au fond un jugement sur l'évolution démocratique contemporaine. Donc voilà, je pensais que ça équilibrait un peu au début, parce que ce livre, Historien public, c'est un recueil d'articles, soit, mais c'est un recueil très composé, comme vous l'avez compris, et donc très organique. Donc je pensais que ce petit sourire...
Et là on finit justement sur la société à la fois politique, publique...
Voilà, en termes qui confirmaient l'habileté cagneuse que l'on m'avait appris dans le premier chapitre.
Par lequel vous commencez.
Voilà, je trouvais que c'était... Bon, il fallait faire une fin, et je trouvais que c'était une fin assez ludique, ironique, et cependant assez amusante, puisque des gens m'avaient dit que ce texte leur avait paru éclairant.
Vous voulez en lire un petit paragraphe ?
Vous savez ce que j'ai envie de lire.
Oui, allez-y.
C'est pas de moi, c'est la citation de Rousseau par laquelle je termine et qui est beaucoup plus belle que tout ce que ma propre prose.
Mm-hmm. Allez-y.
Et qui est absolument magnifique et sur laquelle je termine. C'est d'autant plus intéressant que c'est un paragraphe d'une, premier paragraphe d'une lettre que Starobinski, auquel je consacre un chapitre dans la... historien public, à côté de Lévi-Strauss, à qui je consacre aussi un chapitre
et
un portrait, à retrouver dans les archives Rousseau. Et donc, c'est une lettre sur la vertu dont on ne sait pas si elle a été envoyée ou pas, probablement pas, et qui est donc un manuscrit de Rousseau. Et la première phrase convenait tellement bien à un discours sur la vertu et à une analyse que ça me permettait de retomber sur mes pieds en termes qui me dépassaient moi-même. Je cite « Vous cherchez à m'embarrasser plus qu'à vous instruire en me demandant qu'est-ce que la vertu. Je pourrais vous dire en deux mots que c'est ce que nul ne peut apprendre que de lui-même et ce que vous ne saurez jamais si votre cœur ne vous a déjà répondu. D'ailleurs, pourquoi renouveler une question si souvent et si bien résolue ? Ouvrez Platon, Cicéron, Plutarque, Épictète, Antonin. Faites mieux encore. Étudiez la vie et les discours du juste et méditez l'Évangile. Ou plutôt, laissez là tous les livres, rentrez en vous-même, écoutez cette voix secrète qui parle à tous les cœurs, et soyez vertueux pour savoir ce que c'est que de l'être. » C'est beau.
Merci Pierre Nora.
Surtout d'un homme si peu vertueux lui-même.
Merci Pierre Nora. Rappelons les titres de ces deux derniers ouvrages, « Historien public chez Calimard, octobre 2011 », dont on vient de parler, et vous venez d'accorder... une autre interview dans une autre émission sur Présent Nation et Mémoire dans la fameuse collection Bibliothèque des Histoires. Merci beaucoup, Monsieur Nora. Et dans le prolongement de ces deux livres, apparaît prochainement, on peut l'annoncer, Recherche de la France. Et vous avez annoncé dans l'émission la publication prochaine, l'édition nouvelle de Les Français d'Algérie avec cette lettre de Derrida dont vous nous avez parlé. Merci beaucoup, Pierre
Merci
Nora.
Merci à vous, madame.